Alors nous allons, en ce début d'année, commencer une petite série sur l'évangile de Marc. Et nous allons lire au chapitre 1, les versets 1 à 8. Nous ferons une lecture suivie après des autres passages dans la suite des prédications de ce mois, du mois suivant. Évangile selon Marc, chapitre 1. Versets 1 à 8, ça commence par le commencement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean-Baptiste parut, il baptisait dans le désert, il prêchait le baptême de repentance pour, en vue donc du pardon des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Il prêchait. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Que le Seigneur éclaire pour nous sa sainte parole. Il l'applique à nos cœurs par son Esprit Saint, que nous soyons attentifs à la parole de Dieu. Amen. Alors, de quelle manière commencer un évangile? De quelle manière et où commencer le récit du ministère de Jésus? Voilà la question que se sont posées Matthieu et Luc et Marc, qui ont le même genre d'évangile, les évangiles synoptiques. Et Matthieu et Luc ont choisi de rapporter le récit de la naissance de Jésus. Au début de Matthieu, il y a le récit de la naissance de Jésus, il y a une généalogie. Au début de Luc aussi, il y a une généalogie, même s'il y a des chapitres 3-4, mais il y a aussi un long récit de la naissance de Jésus au début de l'évangile de Luc. Alors, l'évangéliste Marc, lui, suit une voie entièrement différente. Il choisit d'aller droit au but, bien sûr. Il connaît tous les récits de la naissance de Jésus, mais il choisit une voie différente. Il choisit d'aller droit au but dès que possible et d'aller tout de suite au vif du sujet, de taper dans le vif du sujet tout de suite. Et donc, il commence son évangile avec une phrase qui pourrait passer inaperçu, une simple formule banale. La bonne nouvelle de Jésus-Christ commence ici. Voilà. Donc nous, dans nos Bibles, on a commencement de l'évangile de Jésus-Christ, mais on pourrait dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans une autre version, commence ici. Voilà. Alors c'est une phrase banale, mais il n'y a pas de phrase banale dans les évangiles, bien sûr. Chaque phrase a son importance. Mais cette phrase nous dit finalement bien plus qu'on pourrait le croire, nous en dit plus qu'on ne pourrait le croire à la première lecture. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que le mot évangile, aujourd'hui, c'est un mot qui est entré dans le langage courant. Pour nous, ça désigne un livre, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Ou plutôt, ça désigne donc les quatre livres, les quatre premiers livres du Nouveau Testament. Et on oublierait presque parfois que le mot évangile, eh bien, n'est qu'une transcription d'un terme grec, euangelion, qui a pour signification, une signification très simple. Évangile signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors, quel étrange prophète de bonne nouvelle que ce Jean-Baptiste. Ça commence par Jean-Baptiste. Quel étrange prophète que ce Jean-Baptiste qui apparaît dès le début de l'évangile de Marc. la bonne nouvelle n'apparaît pas tout à fait, hein, tout de suite. C'est l'humilité de Jean-Baptiste qui apparaît. Hein. Son habillement, sa nourriture, son relevé, car ce sont des signes de son humilité, avant tout. Hein. Ce n'est pas du folklore, c'est parce qu'on veut souligner l'humilité de Jean-Baptiste, hein, qui annonce quelqu'un de plus grand que lui, qui annonce la venue du Messie, du Fils de Dieu. Alors comment se marque son humilité? Son vêtement de poil de chameau, c'est un habit très rustique, hein, déjà à l'époque. Hein, on ne vivait pas comme ça. Hein, c'était vraiment rustique comme habit. La ceinture autour des reins indique que l'homme est toujours en route, qu'il n'a pas de lieu pour se reposer, pour mettre sa tête. Hein, car pour marcher sur les routes poussiéreuses et boueuses du pays, les gens relevaient les pans de leur manteau et les attacher avec une ceinture, hein, avec un lien, hein, autour des reins. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de lieu où reposer la tête, hein, ni maison ni palais. Et le lecteur juif, qui connaît bien sa Bible, peut faire facilement le rapprochement avec Élie. Élie le prophète, 2 Rois 1-8. C'est la même description en gros. C'est un homme, donc Jean-Baptiste est comme Élie, un homme habitué au dénuement, un homme qui vit en marge de la société en raison de sa fidélité au Seigneur et à ses commandements. Et puis des sauterelles, il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors, je sais bien que c'était la mode de manger des insectes, ça sera de plus en plus le cas. Hein. Mais ce sont avant tout, dans la Bible, des aliments pour les fugitifs, hein. Pour ceux qui vivent en ermite, loin de la société, hein. Pour ceux qui s'efforcent de survivre dans le désert. Donc l'humilité de Jean-Baptiste. Et cette humilité ressort particulièrement au verset 7. Délier les courroies des sandales, a-t-il dit. Je ne suis pas digne de délier les courroies des sandales du Messie qui va venir. Donc délier les courroies des sandales, c'était le travail d'un esclave, d'un serviteur de petite classe qui accueillait son maître ou qui accueillait un visiteur dans la maison. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui enlevait d'abord ses souliers. Il lavait ses pieds, qui avaient été dans toutes sortes d'endroits nauséabonds et malséants. Et parfois, il lavait même ses chaussures. Donc, l'humilité de Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. C'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament, dit Jésus. Au-delà de cela, il y a un grand, grand prophète qui annonce directement la venue du Messie. Un prophète dont le message fondamental est un message de repentance. La repentance pour le pardon des péchés. Voilà ce qu'il annonce. Il veut prêcher la repentance au peuple, le retour à Dieu, pour préparer son peuple à recevoir le pardon des péchés que le Messie va apporter quand il viendra. Et donc, pour accepter le Christ, les gens doivent s'abaisser, doivent reconnaître leurs fautes, doivent confesser leurs fautes. Donc là aussi, l'importance de l'humilité est d'emblée affirmée. Donc Jean-Baptiste, un homme humble, qui transmet humblement l'évangile, qui transmet la bonne nouvelle de quelqu'un de plus grand que lui qui va venir, et Jean-Baptiste qui prêche la repentance et qui prêche l'humilité, le retour à l'humilité pour accueillir la bonne nouvelle du Messie. Alors en réalité, donc, ce qu'annonce Jean-Baptiste, c'est pas la bonne nouvelle directement. La bonne nouvelle, ce n'est pas Jean-Baptiste. La bonne nouvelle, ce n'est pas son message, c'est un message de préparation. La bonne nouvelle, c'est celui qui va venir, c'est une personne. La bonne nouvelle, c'est une personne, c'est celui qui vient après lui. C'est celui dont Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas digne d'ôter les sandales. Ce n'est pas nous, les chrétiens, la bonne nouvelle non plus. Ce n'est pas l'Église, quelle qu'elle soit, même la plus parfaite. Ce n'est pas l'Église qui est la bonne nouvelle, c'est encore moins une religion, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus, une personne. C'est le fait que cette personne soit le Christ. Voilà la bonne nouvelle. Que cette personne soit le Christ, le Messie, celui que Dieu a choisi pour accomplir son plan de salut, son plan de réconciliation, son plan de communion retrouvée avec Dieu. C'est la bonne nouvelle, c'est le fait que ce Messie est le Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est-à-dire, le Messie est Dieu lui-même. Voilà la bonne nouvelle. Jésus est le Messie, le Christ, c'est le Fils de Dieu. Alors, on lit ça rapidement, c'est évident pour nous. Mais tout porte ici, tout mot est important. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il n'y a pas de bonne nouvelle. Et dans tout l'évangile, par exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 18, on insiste sur la divinité de Jésus. Jésus disait que Dieu était son Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est dire que Jésus est égal à Dieu. Dieu né de Dieu. Donc le Fils qui nous est donné, le Fils de Dieu qui nous est donné pour notre salut, n'est rien moins que le Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit a placé cette vérité au début de l'Évangile. On place toujours au début ce qui est important. Le Saint-Esprit a placé cette vérité au début de l'Évangile parce que tout l'Évangile est construit ensuite sur ce rocher inébranlable de la divinité de Jésus-Christ. Quelle sécurité nous avons dans notre foi chrétienne. Elle n'est pas basée sur les sables mouvants, des opinions, des personnes humaines, mais elle est basée sur Dieu lui-même. C'est parce que Jésus est Dieu que le sacrifice qu'il va offrir à la croix aura une valeur infinie, la valeur de Dieu. Sa mort est la mort d'un homme comme un autre. Elle n'est pas la mort d'un homme comme un autre, je veux dire. Mais elle est la mort de celui qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement, dit l'apôtre Paul, Romains 9, verset 5. Nous n'avons pas besoin de nous demander si son sacrifice est suffisant pour le péché, s'il faut un autre sacrifice. Ce n'est pas la peine de se demander ça. Si on se souvient que celui qui a offert ce sacrifice est Dieu lui-même, quelque part, est le Fils de Dieu. Et il a mis fin par son sacrifice de façon unique et complète à tous les sacrifices qu'on pouvait offrir. Il est la solution de Dieu au péché de l'homme. Alors l'Évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle centrée sur une personne, Jésus, Fils de Dieu. Est-ce que nous vivons l'Évangile comme une bonne nouvelle? Voilà la question déjà qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que nous annonçons l'Évangile comme une bonne nouvelle? Est-ce que les gens voient dans notre vie et dans notre Église que c'est une bonne nouvelle? Que c'est une bonne nouvelle? Voilà la question aussi, troisième question qu'on peut se poser. Alors, avant d'être une bonne nouvelle, eh bien, il y avait quelque chose avant cette bonne nouvelle. C'est ça mon second point maintenant. On devrait dire que la bonne nouvelle commence presque ici, puisque la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, on l'a dit, mais Marc ne nous en parle pas tout de suite. Il y a un avant la bonne nouvelle. C'est mon second point. Avant la bonne nouvelle, il y avait les prophètes, et notamment Ésaïe le prophète. Ésaïe, c'est le grand prophète le plus long, 66 chapitres dans l'Ancien Testament. Et il a annoncé à plusieurs reprises le Messie qui devait venir. Et Ésaïe annonce l'émergence d'une voix qui crie dans le désert, quelqu'un qui va précéder le Messie et qui va annoncer immédiatement ou presque immédiatement son arrivée. Il y a aussi donc avant la bonne nouvelle, il y a Jean-Baptiste dont on a parlé tout à l'heure. La prédication publique de Jean-Baptiste invitant les foules à se préparer à l'accueil du Messie qui doit venir. Et puis il y a le baptême de Jean-Baptiste, proposé par Jean-Baptiste, qui va annoncer la venue de l'Esprit-Saint, quand le Christ apportera dans les cœurs des hommes la conversion, la réconciliation avec Dieu, la communion retrouvée avec le Christ. Bref, la bonne nouvelle ne tombe pas du ciel, il y a une préparation. Et ça ne tombe pas du ciel du jour au lendemain. Il y a une émergence. Et son émergence est préparée. Vous connaissez le cantique qu'on chante à Noël. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. C'est long, 4000 ans, vous savez. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Et donc, il y a une vérité importante là. Pour recevoir la bonne nouvelle, il faut y être préparé. Et comme un peu la bonne terre de la parabole, on reviendra sur la parabole du semeur, il faut une bonne terre pour accueillir la semence est bonne, mais il faut une bonne terre pour accueillir la bonne semence. Alors, comment avons-nous été préparés? Chacun peut se poser cette question ce matin. Comment avons-nous été préparés pour recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile? Certains ont été préparés par l'éducation. Ils sont nés dans une famille dite chrétienne. Et ils ont reçu l'enseignement des Écritures tout petits, à l'école du dimanche également. Ils ont bénéficié de la famille qui les a entourés, qui a prié pour eux, avec eux. Mais d'autres n'ont pas eu cela. Ils ont bénéficié de rencontres. L'Évangile étant... il y a eu des rencontres qui ont préparé la venue de l'Évangile dans leur vie. On avait un ami qui était chrétien, on avait quelqu'un qu'on a rencontré, qui nous a parlé de l'Évangile, et c'est comme ça qu'on s'est rapproché petit à petit. Pour certains, c'est les circonstances qui ont été préparatoires. Et voilà, les circonstances de la vie, ça peut être les événements heureux. Ils ont rencontré quelqu'un à un mariage, et puis ils ont entendu la prédication de l'Évangile pour la première fois. Ou alors des événements malheureux. On rencontre des fois le Seigneur lors de funérailles. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu prêchée avec clarté pour la première fois lors des enterrements. Et parfois, on peut avoir un pépin dans la vie et on se rapproche du Seigneur à cause des circonstances difficiles de la vie. Et beaucoup de gens rencontrent le Seigneur au travers des circonstances difficiles de la vie. Je crois qu'on pourrait en témoigner chacun aussi. Nous avons tous un chemin propre à chacun. Et un chemin dans lequel, pourtant, nous pouvons sans aucun doute discerner des jalons que Dieu a posés dans notre vie pour nous préparer à l'accueil ensuite de la bonne nouvelle. Mais il y a toujours dans notre vie quelqu'un qui a précédé la venue de Jésus-Christ. On a tous un Jean-Baptiste dans notre vie. On peut y penser à quelqu'un. Voilà, moi c'était ma tante, c'était d'autres personnes. Mais on a tous un Jean-Baptiste qui a précédé la venue du Christ dans notre vie. Et sans le savoir, nous sommes tous également des Jean-Baptistes pour quelqu'un. Nous sommes tous appelés à être des précurseurs du Christ pour quelqu'un. Nous sommes tous appelés à être des témoins humbles qui laisse la place à celui qui vient, le Christ. Nous ne sommes pas le Christ pour les gens qui se convertissent à Dieu. Nous sommes des Jean-Baptistes qui montrons le Christ. Et c'est aux personnes à recevoir le Christ dans leur vie. Et c'est lui, le Christ, qui doit prendre toute la place. Il faut que je m'efface, il faut que je diminue, dira Jean-Baptiste, pour que le Christ grandisse dans la personne. Donc tout cela est vrai, du début de la vie chrétienne. Il y a un accueil initial qui est nécessaire, c'est la conversion, la venue de l'Esprit-Saint dans notre vie pour apporter une vie nouvelle, la régénération, le renouvellement, la vie nouvelle avec Dieu. Mais cette bonne nouvelle doit aussi être sans cesse reçue à nouveau. La bonne nouvelle qu'on a reçue au début de la vie chrétienne, on doit la recevoir tout au long de la vie chrétienne pour qu'elle continue à changer notre vie. Et pour que ce soit le cas, nous devons continuer à nous préparer à la recevoir. Un jour, on a reçu la bonne nouvelle dans notre cœur, mais chaque jour, tout au long de la vie, il faut continuer à nous préparer à recevoir cette bonne nouvelle. Alors, comment nous préparons-nous à accueillir la bonne nouvelle aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui dimanche, ou dans notre quotidien, comment faisons-nous? Dans quel état d'esprit venons-nous au culte? Voilà la bonne question. Dans quelles conditions ouvrons-nous notre Bible? Dans quelles conditions prions-nous à la maison? Peut-on se contenter de lire sa Bible comme on lit son journal? Est-ce que c'est une bonne préparation? Peut-on se satisfaire de venir à l'église par habitude, même s'il y a de bonnes habitudes? Peut-on se satisfaire de venir à l'église en arrivant à la dernière minute? Ou plus? Et en repartant, le culte aussitôt terminé. Est-ce que c'est ça une bonne préparation ? Est-ce cela vraiment se préparer à recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ aujourd'hui pour moi? Il ne s'agit pas, bien sûr, de se préparer à chaque culte en faisant 3 heures de prière. Il ne s'agit pas non plus de mettre son réveil tous les matins à 4 heures ou à 3 heures pour passer 2 heures en prière avant de lire sa Bible. C'est pas ça. Il s'agit sans doute d'abord d'une question de disposition d'esprit, de priorité, d'envie. Mais il ne faut pas s'étonner de ne pas recevoir dans notre vie la bonne nouvelle de Jésus-Christ si nous ne consentons pas à nous préparer à l'accueillir toujours et à nouveau dans notre vie. Voilà la chose qui doit nous marquer aussi ce matin. Et puis je termine avec ce troisième point qui dit que la bonne nouvelle est inachevée. Dans l'évangile de Jean, de Marc, il y a un commencement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence ici. Et on s'attendrait à la fin, tout à la fin de l'évangile de Marc, vous pouvez regarder, on pourrait s'attendre à la formule « La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, se termine ici ». Ah, c'est normal, ça commence là, ça se termine là, 16 chapitres plus loin. Eh bien non, si on va à la fin de l'évangile de Marc, on peut se rendre compte que ce n'est pas le cas, pas du tout le cas. Au chapitre 16, verset 19-20, il est dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. » Donc c'est, à la fin, c'est la même chose que départ. Il y a un écho aux paroles du départ. Marc termine son évangile par 2 thèmes qui sont les mêmes que dans les premiers versets de son ouvrage. Premièrement, ses disciples le voient monter corporellement au ciel, tout comme Jean-Baptiste, on ne l'a pas lu, mais c'est à la suite du récit d'aujourd'hui, tout comme Jean-Baptiste a vu au début de son ministère, Jésus, au début de l'évangile, Jésus, l'Esprit descendre sur Jésus de façon corporelle. Donc ça se termine, à la fin, c'est comme la même chose qu'au début. Et puis un deuxième aspect, l'activité des disciples fait écho au ministère de Jean-Baptiste. Avant la venue de l'Esprit, Jean-Baptiste appelait les Israélites à se repentir. Et à la fin de l'Évangile, c'est Jésus qui envoie les disciples pour annoncer la bonne nouvelle partout et appeler les gens à se repentir, à se convertir à Jésus-Christ. Donc, à la fin, c'est un peu la même chose qu'au début. Il y a un écho au thème du début. Ça veut dire que la bonne nouvelle n'a pas de fin. Oui. À la fin, c'est comme au début, même si c'est renouvelé. La bonne nouvelle est sans fin. La bonne nouvelle commence par la naissance de Jésus. Elle se poursuit par sa mort sur la croix, par son ministère, par sa mort sur la croix. Mais ce n'est pas encore la fin. Elle se poursuit par sa résurrection. Et c'est pourquoi elle n'a pas de fin. Parce que Jésus est ressuscité, il est vivant pour toujours, il est monté au ciel. Et il continue, par son Esprit Saint, à appeler à la conversion, à changer les vies. Il continue, par son Église, à prêcher l'Évangile au monde entier. Et donc, Marc nous invite à continuer à notre tour l'histoire. L'Évangile ne doit pas rester un livre qu'on ferme. Il doit devenir pour nous une bonne nouvelle. Il veut poursuivre son histoire dans chacune de nos vies. Alors, il y a une série de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on estime que la bonne nouvelle de Jésus-Christ a terminé son œuvre en nous? Ça, c'est une question redoutable. Est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ a terminé son œuvre en nous ou ne l'a-t-elle que commencé? Moi, je peux dire qu'elle n'a fait que commencer. La question mérite d'être posée parce que si nous estimons notre conversion à Jésus-Christ comme la fin de l'histoire, comme le happy end de notre vie, eh bien, nous n'avons plus rien à vivre. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Je me suis converti, c'est fini. Et je n'ai plus rien à vivre. Eh bien, c'est bien triste. C'est bien triste. Par contre, si la conversion n'est que le commencement, si la bonne nouvelle de Jésus-Christ a encore une œuvre à poursuivre en nous, alors c'est que le film n'est pas fini. et que nous avons encore des aventures, mais des aventures profondes, diverses et merveilleuses à vivre encore avec le Seigneur. Alors je conclue. Dès le début de son ouvrage, Marc nous rappelle que l'Évangile est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, on peut l'écrire avec un grand B et un grand N. La bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple message, comme on apporte toutes les religions. Toutes les religions sont pareilles, avec leur message, essayant de sauver l'homme par ses efforts, et en s'inventant des gourous qu'il faut suivre. Non, il ne s'agit pas d'un simple message de plus, d'une religion qui essaye de relier Dieu, l'homme à Dieu, mais ou d'imposer des règlements de toutes sortes pour le sauver. Non, il s'agit d'une personne qui est vivante, dit l'Évangile. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, pas un ouvrier, un intermédiaire quelconque, mais Dieu lui-même venu pour nous sauver. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle est vivante parce que Jésus-Christ est vivant. Ce n'est pas une religion humaine, laissée aux soins des forces humaines. Elle est vivante parce que le Christ est vivant aujourd'hui et qu'il vit sa vie par l'Esprit Saint en nous. Et recevoir l'Évangile, c'est le Christ vivant entrer dans notre vie morte, on va dire. Et recevoir l'Évangile, c'est nous tenir prêts à l'accueillir tout au long de notre vie, sans cesser de découvrir tout à nouveau de nouvelles richesses de cet Évangile vivant. Et pour chacun de nous, la bonne nouvelle donc de Jésus-Christ, Fils de Dieu, peut recommencer aujourd'hui, ici et maintenant. Amen.